Cleveland's 100 points out in the West.
Radio X Files avec Christian Page et Camille.
Oh my God.
Radio X.
Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Je crois qu'on va lancer le mois de l'horreur d'une très belle façon ce soir dans l'émission Radio X-Files en ce vendredi 6 octobre 2023. Je m'en cache à peine. C'est mon émission préférée des vendredis dans la thématique des crimes et des histoires irrésolues, les crimes occultes ou les histoires de tueurs en série. Et ce soir, on retourne dans le temps pour parler d'un mystère qui n'a été élucidé qu'une trentaine d'années après les faits. Et on se dirige en Australie pour le sujet de la soirée.
On a night full of stars, in a campground full of families, Lindy Chamberlain lived the nightmare that every mother fears.
God, no, please, God, help me. The baby! My baby!
And the press found a victim. Meryl Streep stars in a true story of a brave mother's trial.
She's a witch, you know.
You're crediting me with the perfect murder.
Someone is definitely out to get us.
Tell me what really happened to your little sister.
Lindy's private life became public property. Her grief became a sideshow, and her innocence became a story no one wanted to hear.
I'd like to know more than anyone else. What happened to my baby daughter?
Would you like me to give you a 10-minute break?
No, I'd prefer to go on with it, Your Honor. This has been going on for 2 years now. I want to get it over with.
It's not going over well with the jury. Try and be more demure.
I won't be squashed into some dumb act for the public.
Lindy Chamberlain's courage inflamed a nation. But her triumph inspired the world. Meryl Streep. Sam Neill. A cry in the dark.
Bonsoir, mon cher Christian Page.
Bonsoir, Camille.
Donc, ce soir, tu nous amènes à discuter de l'affaire Azaria Chamberlain.
Oui, et tu as mentionné qu'il a fallu une trentaine d'années pour résoudre l'affaire, mais pour beaucoup d'Australiens, l'affaire n'est pas résolue.
Non, pas encore. Intéressant.
Parce que entre le fait de dire que quelqu'un n'est pas coupable, c'est pas tout à fait la même façon que de dire aux gens. Les gens restent souvent ancrés dans des croyances là, qui sont très soutenues, et en Australie, parce que bon, évidemment, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Azaria Chamberlain, qui est un fait divers dont on a parlé à travers la planète à l'époque. Et les gens, il faut comprendre qu'on est dans un contexte très particulier. Hein, ça se passe en Australie. Et les Australiens aiment beaucoup les animaux. Hein. L'Australie est un grand pays qui a à peu près rien. Hein, pour les gens qui ont visité l'Australie, ils savent de quoi je parle. C'est un pays où il y a à peu près de la population que sur les côtes. Et le reste du pays, c'est un grand, grand, grand désert. Il y a des communautés aborigènes qui sont là, mais c'est vraiment un désert immense, l'Australie. Et c'est également un climat qui est très, très rigoureux. Et il y a une faune qui est très particulière en Australie parce que dans l'histoire de l'évolution des espèces, ben, l'Australie est un continent qui s'est détaché assez rapidement du grand continent original. Donc, l'évolution des espèces s'est faite un peu en marge des autres espèces à travers le monde. Donc, on a des animaux un peu bizarres. Bon, bien sûr, on pense immédiatement à l'Australie, c'est les kangourous, les koalas, oui, les ornithorynques. On a parlé il y a quelques semaines du thylacine, le tigre, ce tigre marsupial, etc. Et parmi les animaux qu'on trouve en Australie, il y a un animal qui n'est pas un animal, exotique de l'Australie, qui a été introduit, c'est le dingo. Et le dingo, les gens... va pas dire un Australien qu'un chien sauvage, c'est un dingo. Je vais avoir une claque sur la gueule.
OK!
Pour les Australiens, le dingo, c'est plus qu'un chien sauvage. Hein. Il a été introduit au moment, à l'époque, il y a 300 ans, quand on a commencé à coloniser l'Australie, le dingo n'existait pas. Il n'y avait pas de chien, il n'y avait pas de canidé en Australie. Ce sont vraiment les Européens qui l'ont amené en Australie. À l'époque, on en a parlé il y a quelques semaines quand on parlait du thylacine. Le thylacine, le tigre d'Australie, qui ressemblait en fait à un gros chien là avec une fourrure un peu zébrée sur la partie arrière, mais qui appartient à la famille des marsupiaux, donc la famille des kangourous avec une poche sous le ventre, tout ça. Le tigre de Tasmanie, et qu'on trouvait également en Australie, était en haut de la chaîne alimentaire. Donc lui, il n'y avait pas de prédateur. Bon, il y avait le beau jeu, là, c'était pour lui là, toujours le buffet à volonté. Quand les premiers colons sont arrivés, ils ont introduit dans l'île, sur le continent, ils ont introduit des moutons et d'autres élevages qu'il n'y avait pas en Australie. Alors encore une fois, c'était c'était le buffet ouvert pour le thylacine. C'est d'ailleurs ce qui a emmené d'ailleurs cette chasse au tigre de Tasmanie qui éventuellement a entraîné sa disparition, son extinction, parce que comme il s'en prenait aux cheptels et aux élevages, le gouvernement australien avait autorisé une livre sterling pour chaque thylacine qui était abattu. Donc les gens se sont lancés dans la chasse au thylacine.
Okay.
Éventuellement, on a éliminé l'animal. Mais une fois qu'on a eu éliminé le thylacine, ben là, on s'est retrouvé avec un nombre important de chiens, parce qu'on avait introduit aussi des chiens dans l'île, sur le continent, pardon, pour essayer de protéger les cheptels. Fait qu'au départ, ben ces chiens avaient comme opposants les thylacines, mais quand une fois le thylacine a été disparu, les chiens, ben là, on en avait énormément des chiens, et beaucoup sont retournés à l'état sauvage. Mais le dingo n'est plus tout à fait un chien sauvage, parce que si tu parlais par exemple avec des éthologistes, les éthologistes sont les experts qui étudient le comportement des animaux dans leur environnement.
Okay.
Les chiens qu'on dit nous sauvages, ce sont souvent des chiens qui au départ proviennent leurs ancêtres, puis pas leurs ancêtres très lointains, on parle une ou deux générations, étaient des animaux qui étaient domestiqués. Donc, ces animaux-là, éventuellement, sont retournés à l'état sauvage. Mais retournés à l'état sauvage, c'est comme s'ils gardaient encore dans son ADN une forme de souvenir, presque un souvenir génétique, de sa domestication. Donc, tu peux éventuellement, si tu vois un chien sauvage, bon, ben évidemment, si tu n'es pas trop agressif, le chien va avancer, puis il peut se baisser la tête, puis tu peux réussir à le flatter.
OK.
Mais quand tu visites l'Australie, puis tu vois un dingo, et je le dis aux gens qui auraient peut-être envie d'aller visiter l'Australie, si vous voyez des dingos, là, flattez-les pas. Vos chances d'être mordus, c'est 100%.
OK.
C'est 100%. Pas 80%, c'est 100%. Les dingos, ce sont des chiens qui sont retournés à l'état sauvage, mais qui ont perdu cette espèce de souvenir génétique qu'ils appartenaient autrefois à des espèces domestiquées. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus aucun lien avec cette domestication qu'ont connu leurs ancêtres très lointains. Donc, le dingo, c'est plus qu'un chien sauvage. C'est le chien sauvage des chiens sauvages. Et inutile de dire qu'en Australie, les quelques personnes qui ont réussi à domestiquer des dingos, parce qu'il y en a des gens, des agriculteurs, par exemple, des fermiers qui ont réussi à dresser des dingos, c'est presque un tour de force. Hein. Ramener un dingo à l'état domestique, c'est presque un tour de force.
Il y a un grand écart historique.
Écart, effectivement, pour pouvoir espérer raviver en cet animal-là le souvenir d'une domestication ancienne. Les dingos, c'est curieux parce que les dingos, à force de se mêler entre eux, ils ont créé une race qui est propre à eux. C'est-à-dire que c'est pas comme entre guillemets, un chien bâtard. On dirait, ben non, lui, on dirait qu'il y a un petit peu de collé, puis lui, on dirait qu'il y a un petit peu de berger allemand. Ça ressemble pas à ça. Les dingos sont tous pareils. C'est comme des espèces de chiens à fourrure très, très rase et qui sont de couleur fauve, là, comme couleur blond fauve. Là. Ils sont tous pareils. Et on dirait que ça s'est répandu dans leur code génétique. Ils se multiplient, à force de se multiplier entre eux, peu à peu, ils ont créé comme une espèce de signature génétique. Et tous les dingos sont pareils. Inutile de dire que pour les Australiens, le dingo est un animal très important. Il fait partie de la faune australienne. Il est distinctif de la faune australienne. Même s'il n'est pas un animal originaire de l'Australie, il en est devenu un.
C'est devenu un animal d'adoption.
Voilà, c'est un animal d'adoption, mais aujourd'hui, des dingos comme on n'a que des kangourous en Australie, ben on a des dingos qu'en Australie, on n'a pas ailleurs, des chiens qui sont retournés à un tel état sauvage. Donc pour les Australiens, il y a une espèce de protectionnisme autour de leurs animaux, hein, les kangourous, les koalas, puis bien sûr les dingos. Et ici, notre histoire, elle met en vedette deux éléments qui sont très très sensibles dans l'imaginaire des Australiens. D'abord, il y a le dingo qui va être pointé du doigt comme étant le responsable du drame dont on va parler. Et ensuite, l'incident lui-même se passe à Higher Rock. Qu'est-ce que c'est que ce Higher Rock? Ben, c'est une grosse roche. En fait, c'est la plus grosse roche qui existe sur Terre.
OK.
Elle se trouve dans un désert australien. Elle est à peu près là. On est dans le gros, grosso modo, si tu t'imagines l'Australie, là, imagine-toi à peu près au centre même de l'Australie. Il y a la ville d'Alice Springs qui fait partie de ce qu'on appelle les territoires du Nord. Et à peu près à 335 kilomètres au sud-ouest de Alice Springs, il y a ce rocher-là. Il y a rien, là. Je te le dis, là. Il y a rien, là. T'es dans le désert. Il y a une roche. C'est tout ce qu'il y a là. Cherche pas, il y a une roche.
Est-ce qu'elle vient, justement, tu dis la plus grosse de la Terre, est-ce qu'elle vient de la Terre ou ça vient de l'espace?
Non, c'est une roche parce que quand tu la vois, hein, c'est une roche immense, là. Elle fait 348 mètres de haut. C'est littéralement une montagne.
Okay.
Et on a l'impression, beaucoup de gens, des touristes, auront l'impression qu'il s'agit d'une montagne. Mais ce n'est pas une montagne. C'est-à-dire que on pourrait creuser en dessous. Elle n'est pas rattachée à la croûte terrestre. Hein. C'est vraiment une roche, et selon les géologues, c'est une roche qui a été comme un peu comme si la Terre avait roté, puis elle avait roté une grosse roche. Tu vois, un peu genre,
okay.
Et cette roche-là, donc, elle provient du manteau de la Terre, mais c'est vraiment comme une sorte de déjection, et elle est restée là, elle s'est pas fragmentée, elle est demeurée intacte, et c'est un immense rocher qui est gros comme une montagne. Et dans le désert où se trouve... Là, on est dans une province ou une région qui s'appelle Uluru. Il y a cette roche-là au milieu du désert et éventuellement, il y a une petite communauté qui s'est développée autour, mais une communauté composée quasi essentiellement d'aborigènes. Parce que les grands déserts australiens, faut se le dire, en dehors, si tu quittes les grands centres, hein, Melbourne, Sydney, Canberra, Perth, ben, tu te retrouves à peu près dans des grandes terres agricoles où on fait de l'élevage principalement de moutons, ou bien tu te retrouves dans des terres qui sont occupées par des aborigènes. Et si tu traverses les déserts australiens, rappelle-toi de mettre de l'essence parce que ils te le disent, hein, quand t'embarques sur l'autoroute. Et bon, voilà, prochaine ville est à 863 kilomètres. Donc, assure-toi de mettre de l'essence dans ta voiture parce que si tu tombes en panne, tu vas marcher longtemps.
Ça, puis on n'a pas parlé de la faune qui est susceptible de tuer les gens, les insectes, les araignées, tout ce qui est plantes.
C'est bien que tu dises ça, parce que moi, quand les gens parlent de l'Australie, je lui dis ça, l'Australie, là, c'est le pays où on veut pas d'humains. Hein?
Oui.
Dans les océans, il y a des requins blancs. Il y a également des méduses qui sont capables de tuer en quelques secondes. Tout ce qu'il y a de pire est en Australie. La pire araignée est en Australie. Le pire serpent est en Australie. La pire méduse est en Australie.
On s'en sort
toujours,
pas.
C'est toujours en Australie. Écoute, en Australie, ils ont même des araignées qui font des voilures, hein, qui sont des centaines de milliers, voire de millions d'araignées. Ils forment des voilures, puis là, ils se laissent entraîner par le vent. Fait que là, tu vois, un espèce de nuage qui passe dans le ciel, un nuage un peu comme un gros morceau de coton. C'est des araignées, ça. C'est une volée d'araignées et ça se dépose sur les champs. C'est comme ça qu'ils se transportent d'un endroit à un autre. Et quand ils se déposent sur les champs, là, tout le champ, là, on parle de plusieurs centaines de mètres là, de surface, entièrement recouvert de toiles d'araignées. Et là-dedans, c'est, écoute, tu veux pas tomber là-dedans, c'est des centaines de millions d'araignées. Là. Écoute, une affaire épouvantable, digne d'un roman d'horreur. Tu sais. Même Stephen King n'aurait pas pensé à ça.
OK.
C'est vraiment incroyable. Bon, mais on en revient à Higher Rock, tu as tout à fait raison, l'Australie, c'est un pays qui est difficile. Hein. Faut faire attention, comme je l'ai mentionné, les pires araignées, les pires serpents, les pires méduses et pour avoir déjà fait l'expérience, les crocodiles viennent manger dans ton jardin.
OK.
Fait que faut faire attention. Je pense que je t'ai déjà conté l'anecdote, j'étais sorti de mon hôtel, on avait comme loué, on tournait un documentaire, puis on était dans des petits, on était pas loin de Melbourne, on était juste en banlieue de Melbourne, donc on est proche proche d'un centre urbain important. Et on avait loué des petits chalets qui ressemblaient à des maisons. Et juste derrière nous, il y avait effectivement la forêt. Et à un moment donné, je change. Et c'était des petits chalets individuels. Donc, on avait toute l'équipe qui était là. Et un matin, je sors de mon chalet. Je suis comme sur le petit balcon à l'arrière. Puis j'entends comme un sifflement. Je me retourne. Écoute, à moins de 3 mètres de mon balcon, il y avait un crocodile sur la pelouse.
Ça peut-tu marcher vite, ça, quand ça décide de...
Je sais pas, mais non, moi, non, je marchais, ouais. moi, je marchais vite. Moi, je peux te dire que je marchais vite. Donc, c'est épouvantable, tu sais, bon. Et, mais en même temps, c'est un pays qui est magnifique, c'est extraordinaire. L'Australie, ça ressemble à rien d'autre. L'Australie, c'est l'Australie. Et donc, Higher Rock est ce rocher très, pour les aborigènes, c'est un rocher qui est très important. Il fait partie des cultures, il fait partie des légendes. Et, quand on arrive près de Higher Rock, il y a sur le rocher lui-même, il y a des peintures rupestres qui remontent à 10 ou 15 000 ans, qui ont été faites par les aborigènes originaux qui étaient là à l'époque. Donc ça, c'est très... Il y a des parties du rocher qui sont protégées. Et, encore une fois, pour ajouter encore à cette faune étonnante de l'Australie, il y a à Higher Rock une espèce de kangourou qui est à peu près typique de Higher Rock, qu'on appelle les wallabies des cavernes. Et ces wallabies, ces petits kangourous, vivent dans des cavernes qui sont dans Higher Rock. On en retrouve un peu ailleurs en Australie, mais principalement à Higher Rock. Donc, c'est un endroit très important. Et quand le soleil se couche sur Higher Rock, surtout dans notre hiver à nous, donc qui est l'été pour l'Australie, pour les zones australes, le rocher s'illumine, il est comme rouge, hein, il est très ferreux, il devient rouge sang, puis il se mélange au ciel, c'est vraiment un spectacle remarquable. Et tu vas comprendre que ça joue un rôle aussi dans notre histoire. Donc, un lieu très riche, très fort dans la culture autochtone aborigène de l'Australie, très riche également sur l'aspect touristique, parce que dans cette région-là, il y a à peu près rien. Les gens qui vont dans cette région-là, ou bien ils vont vers le centre qui est Alice Springs, pour des raisons d'affaires commerciales ou parce qu'ils vivent là, ou bien pour le tourisme, on va voir ce fameux rocher pour voir le soleil se coucher. Donc, il y a une petite communauté qui s'est développée autour d'Higher Rock, comme je l'ai mentionné, principalement composée d'aborigènes, et il y a un terrain, un assez important terrain de stationnement pour faire du camping, puis tout ça, où les gens vont chaque année, et principalement lorsque... Tu es un peu adepte de philosophie ésotérique, donc au moment où arrive le solstice d'hiver, on veut voir ça, on veut voir le soleil se lever sur Higher Rock, il y a toute une espèce de dynamique autour de ça. Et c'est ce qui nous amène à notre fameuse histoire. Donc si on retient ces deux éléments-là, à quel point ces éléments-là sont importants dans la culture australienne, ça nous ramène, on est le 17 août 1980, on a un couple, une certaine Alice Lynn Lindy Chamberlain, son époux Michael Chamberlain, ce sont des gens qui appartiennent à l'église adventiste du septième jour. Donc ce sont des gens qui pratiquent une religion, qui sont d'une obédience religieuse assez fondamentaliste. Hein? Le bon Dieu par-ci, le bon Dieu par-là, ils élèvent leurs enfants dans des règles strictes de la religion. Et ils sont accompagnés de leurs 3 enfants. Ils ont 2 garçons, Aiden et Regan, et ils ont une petite fille qui est née 9 semaines plus tôt. Elle est née le 11 juin, qui s'appelle Azaria.
9 semaines, OK.
Oui, elle s'appelle Azaria Chantel Lauren Chamberlain. Et donc, ils vont à Higher Rock. Ils sont arrivés la veille. Et bien sûr, comme tous les touristes qui sont là, ils attendent le coucher du soleil pour voir le spectacle du soleil qui se couche derrière le rocher. Ils ont passé la veille, d'ailleurs, à grimper sur le rocher, ce qui est pas nécessairement conseillé. C'est un parc national. Faut que tu sois en forme pour monter sur le rocher. Puis il y a qu'une seule corde. Il y a une corde qui part du sommet du rocher, qui descend jusqu'en bas. Et ben un câble en acier là, qui est planté dans le rocher avec des œillets. Là. Donc tu dois t'accrocher à cette corde là si tu veux monter sur le rocher. Mais évidemment le rocher souvent il est recouvert un peu de sable, tout ça à cause des vents. Ça devient une surface qui est excessivement glissante. Et il est arrivé à maintes reprises qu'il y a eu des accidents où des gens ont déboulé du rocher. Puis si tu fais une chute de 350 mètres, t'es mort.
Ouais, c'est un peu fini.
On comprend bien là-dessus,
ça.
Là, t'es mort. Ça, je veux dire, on t'avertit d'avance. Donc, ils ont passé la journée à se promener avec les enfants autour du rocher, tout ça. Et arrive ce fameux soir du 17 août 1980. Ils se sont liés d'amitié avec un couple qui ont installé leur tente, en fait une roulotte, juste à côté de la leur. Donc, ils ont échangé durant la journée. Et là, arrive la soirée. On se propose de faire un pique-nique ou un barbecue entre nous. Donc, les Chamberlain, avec leurs trois enfants, et ce couple se réunissent, on discute entre eux. Et là, à un moment donné, la petite Azaria tombe de sommeil. Et là, je te raconte les faits tels que va le raconter Madame Chamberlain, hein, comment Lindy Chamberlain va raconter les événements dont elle est la seule témoin. Ça, c'est très important.
Okay.
Donc, elle raconte, à un moment donné, la petite Azaria est tombe de sommeil. Elle va la reporter elle va la replacer dans la tente, dans son berceau, tout ça. Et elle revient. Et puis, à un moment donné, un peu plus tard, bon, là, évidemment, toutes les 15 ou 20 minutes, elle va aller voir pour s'assurer que l'enfant est correct, tout ça. Mais tout semble parfait. Durant la journée, c'est important de mentionner que, comme, tu sais, je t'ai parlé des dingos, là, le comportement des dingos, c'est un peu comme nos ours ici au Québec. Si tu vois un ours, t'iras pas le flatter. Ben, c'est un peu la même chose. Tu vois un dingo en Australie, tu le flattes pas. Mais les dingos se comportent un peu comme nos ours, c'est-à-dire que ce sont des animaux sauvages. Ils auront tendance à fuir les humains. Mais comme les ours ici, lorsqu'on est dans... Voilà, quand on est dans un parc national, tout ça, les ours ont appris hein, que la présence des humains, c'est souvent synonyme de nourriture. Donc, ils vont avoir tendance un peu à devenir curieux, à s'approcher, à faire preuve d'une certaine... ils vont devenir un peu intrépides. T'sais, ils vont aller, ils vont s'avancer, puis bon. Et évidemment, il faut que les gens soient prévenus de ça. Et lorsque tu arrives sur le parc, justement au côté d'Iron Rock, comme il y a beaucoup de dingos dans le désert, on dit aux gens, faites attention, parce que les dingos ont tendance à s'approcher des habitations, parce que évidemment, ils font cette association humain et nourriture. Donc, ce jour-là, ils ont vu des dingos dans le désert, près d'Iron Rock. Mais évidemment, les dingos, c'est des animaux qui fuient les humains, là. Dès qu'ils voyaient l'humain, hop, ils partaient, ils déguerpissaient. Mais la nuit tombée, bien évidemment, ils deviennent un peu plus intrépides. Ils s'approchent un peu plus près, puis ils essaient de voler à gauche et à droite de la nourriture qui pourrait avoir été laissée là. Donc ce soir-là, 17 août 80, les Chamberlain, leurs enfants et ce couple sont là à discuter entre eux. La petite Azaria tombe de sommeil, on va la placer dans la tente, on revient. Madame Chamberlain va à quelques reprises faire des allers-retours à la tente pour s'assurer que l'enfant va bien. Et puis à un moment donné, l'un des petits garçons des Chamberlain dit, je crois avoir entendu le pleur du bébé. Alors, Madame Chamberlain quitte et elle va quitter pendant à peu près 3 à 4 minutes. C'est assez court. Et à un moment donné, durant ces 3 ou 4 minutes, elle va crier et elle dit le dingo est parti avec mon bébé. Personne d'autre a vu, personne d'autre voit le dingo avec le bébé. Ça, c'est elle qui dit ça. Et elle dit pas de quelle façon le bébé a été emmené par le dingo. D'ailleurs, au procès, ça va ressortir parce qu'on va demander à M. Chamberlain, OK, elle a dit que le dingo était parti avec le bébé, mais est-ce que le bébé était tenu dans sa gueule? M. Chamberlain dit, je ne sais pas, mais elle ne l'a pas dit. Donc, en cours, Madame Chamberlain va dire, j'ai vu le dingo qui est sorti en se brassant la tête. J'ai supposé que Azaria était dans sa gueule, mais elle admet qu'elle l'a pas vraiment vu. Quoi qu'il en soit, dès qu'elle voit le dingo, c'est ce qu'elle va raconter, dès qu'elle a vu le dingo sortir de la tente, elle s'est précipitée à l'intérieur pour s'apercevoir que le landau de l'enfant était vide. Il y avait un peu de sang sur le poteau de métal au milieu de la tente, mais il n'y en a pas sur la moustiquaire qui sert d'entrée et de sortie là, à la tente. Là, la petite moustiquaire qui est en avant, il n'y a pas de trace de sang.
Essayé de le pousser pour sortir.
Voilà, si le dingo tenait le bébé dans sa gueule, évidemment, en essayant de sortir par la moustiquaire, le bébé aurait dû frotter sur la moustiquaire et laisser une empreinte de sang, ce qu'il n'y a pas. Il n'y en a que sur le poteau. Alors là, évidemment, il y a une immense battue qui est organisée. Les gens sont mitigés, hein, parce que là, Madame Chamberlain dit « Le dingo est parti avec mon bébé. » Mais un dingo qui part avec un bébé, c'est quand même, tu sais, on en a vu des dingos essayer de voler des objets, mais généralement, ils font pas très loin, surtout un objet de ce poids-là. Là, on parle quand même d'un enfant qui fait quand même quelques kilos, là. Donc, Le dingo aurait couru 20 ou 30 mètres pour aller laisser tomber le bébé. Il peut pas courir comme ça pendant des mois et des mois. Là, t'sais, là,
non.
Avec un bébé dans la gueule, on se dit, bon, ben il est où ce bébé-là? Donc, on fait des recherches, on trouve strictement rien. On ne trouve pas non plus de traces de sang nulle part. Donc ça, c'est quand même assez intriguant. Évidemment, devant cette espèce de chaos qui est provoqué par la disparition de l'enfant, les gardes du parc vont être appelés, les policiers vont être appelés. On arrive sur place, on va constater qu'il y a autour du campement des empreintes de pas de chien, de dingo, mais on le sait, le jour quand les gens visitent le rocher puis qu'il y a moins de gens dans le parc, ben ça arrive que les dingos viennent sur place. Donc c'est pas significatif. Puis on ne trouve pas sur place non plus d'éléments qui permettent d'étayer l'hypothèse que dit Madame Chamberlain, à savoir que l'enfant a été porté disparu. Ben, en fait, l'enfant est porté disparu, mais qui a été porté disparu parce qu'emporté par un dingo, ça, on n'en est pas sûr.
Okay.
Et il faut dire que le Azaria ne sera jamais retrouvé. Donc, on aura beau mener les enquêtes autant comme autant, on n'arrivera pas à retrouver l'enfant. Et puis, à peu près une semaine après la disparition d'Azaria, des gens qui font de la recherche vont retrouver... L'enfant était habillé parce que, évidemment, Madame Chamberlain, dans sa déclaration, explique, bon, le dingo est parti avec le bébé, et elle dit, le bébé est habillé d'une grenouillère, et par-dessus cette grenouillère, il avait un petit manteau. Or, à peu près une semaine après la disparition d'Azaria, à 4 kilomètres, c'est quand même éloigné, là,
ben
à
oui.
4 kilomètres du campement où les Chamberlain se trouvaient, on va retrouver la grenouillère de l'enfant. Et, crois-le ou non, la grenouillère est inversée, hein, inside out, là, tu sais, là, renversée.
OK.
Là, tu te dis, ouais, c'est... Je veux dire, moi, si j'enlève mon chandail, là, il va devenir à l'envers. Mais tu sais, un chien, es-tu capable de faire ça, enlever l'enfant de dans son pyjama, puis de renverser, mettre à l'envers sa grenouillère? Tu comprends? Ça paraît étrange. Bref, ça devient un élément circonspect. La grenouillère en question est couverte de sang. Donc, évidemment, il y a une enquête, évidemment, qui est lancée. Est-ce que c'est un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il y a une première enquête qui est menée. On est le 15 décembre 1980. Donc, on est à peu près 6 mois après les événements. Et là, il y a cette première audition. Donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant, cette affaire-là du dingo qui a emporté le bébé. Évidemment, ça fait la une des journaux en Australie. On en parle partout. J'ai même mis sur la page de Radio X-Files une page d'un quotidien australien du 17 août, je crois, ou du 18 août 1980, donc une journée ou deux après la disparition du bébé. Puis évidemment, la manchette, c'est un dingo a volé le bébé. Là, t'sais, là, donc, c'est quelque chose dont on parle. Et les gens deviennent passionnés par cette histoire-là. Et quand arrive cette première audition, c'est pas un procès, c'est une première enquête, une audition d'enquête qui se tient le 15 décembre 1980. Ça se tient d'ailleurs à Alice Springs, là où qui est le chef comté de Lul, où se trouve justement le fameux rocher Higher Rock. C'est télédiffusé. Et c'est la première fois qu'on assiste à un semblant de procès ou de procès qui est diffusé à la télévision australienne. Donc, évidemment, les gens sont un peu passionnés par cette histoire-là parce que c'est très inhabituel. On n'a jamais entendu parler de ça. Il n'y a pas de précédent qu'un dingo s'est sauvé avec un bébé. Donc, on veut savoir de quoi il en parle. Et déjà, ça joue un peu contre les Chamberlain parce que cette image, on ne les connaît pas. On ne les a vus que sur des photos, dans des journaux, mais la diffusion de cette audition va jouer en défaveur pour eux, parce que les Chamberlain, ce sont des gens étranges.
Ah, mais okay.
Étranges pour le public en général. Hein. Monsieur Chamberlain, lui est plutôt émotif, comme on pourrait s'y attendre pour un homme qui a perdu son enfant. Mais Madame Chamberlain, elle est antipathique à tout le monde. Premièrement, elle vient de la Nouvelle-Zélande.
Oh!
Donc, la Nouvelle-Zélande, c'est un peu cette espèce de sentiment qui existe comme entre les Québécois, par exemple, puis les Ontariens.
Oui, il y a une petite rivalité.
Une petite rivalité. Là. Bon, c'est les Nordiques ou le Canadien.
T'sais. Oui, oui.
Mais tu sais, il y a une espèce de rivalité, là. Tu sais, ouais. Elle vient de la Nouvelle-Zélande. Et ce sont d'abord des gens aussi, comme je l'ai mentionné, qui sont très religieux. Donc, c'est un, quand on leur parle de leur fillette qui est disparue, on s'attendrait à ce qu'ils fondent en larmes, ce qui est généralement le cas de Monsieur Chamberlain. Il semble très proche de ses émotions. Mais à tout bout de champ, c'est de nous ressortir, Dieu par-ci, Dieu par-là, si c'est arrivé, c'est parce que Dieu le voulait, puis c'est la volonté de Dieu. On trouve ça étrange, hein. Je veux dire, t'as perdu ton enfant, il a peut-être été enlevé, dévoré par un dingo, puis tu nous parles du bon Dieu, puis c'est une épreuve, puis Madame Chamberlain, elle est pas sympathique.
Okay.
Et ça joue contre elle. Elle porte des lunettes fumées. Quand on l'interroge, elle semble au-dessus de ses affaires. Elle est un peu narquoise envers les enquêteurs, parce que t'as une enquête qui est comme menée par la couronne. C'est pas un procès, mais t'as comme une enquête qui est menée par un procureur de la couronne d'Australie. Elle se moque un peu de lui. Elle répond pas à ses questions. Elle est évasive. Elle est pas sympathique. Et ça va jouer un peu dans leur défaveur. Et évidemment, il y a des experts qui viennent. Et l'élément qu'un des experts dit, ben voilà, le pyjama était sans dessus-dessous, là. Il avait été renversé, il était à l'envers. Et on avait une marque de sang très importante au niveau de la gorge. Et cet expert-là dit, à mon avis, là, cette trace de sang a été faite par un coup de couteau qui a été droit. Ah, ça semble pas mâchouillé. D'ailleurs, on dit, on a analysé la grenouillère en question. On n'a pas trouvé de salive de dingo dessus. C'est quand même surprenant. Si le dingo l'a emmené, il devrait être plein de salive. Il n'y a pas de salive de dingo. Il n'y a qu'une marque de sang. Alors qu'on suppose que le dingo aurait dû mordre l'enfant à plusieurs reprises. Mais non, il n'y a qu'une seule marque de sang. Et elle part du cou vers le bas. Donc, comme si on avait tranché la gorge de l'enfant et que le sang avait descendu le long de la grenouillère. Et encore une fois, on présente ça en cours. Madame Chamberlain est émotive, mais pas autant émotive que les gens auraient attendu. Tu comprends?
Oui.
On s'attend à une réaction précise. Je dis pas qu'elle est froide, mais elle est un peu détachée. Et ça agace beaucoup les gens. Et ajouter à ça les éléments, le pyjama à l'envers, le sang sur le cou de, ce qui semble être sur le cou de l'enfant. Et là, il y a des rumeurs qui se mettent à circuler. Certains disent le nom d'Azaria veut dire, ça c'est des rumeurs qui sont non fondées, mais certains disaient, c'est un drôle de nom, ça, Azaria. Et là, des gens disent, Azaria, ce serait un vieux nom biblique qui voudrait dire sacrifice dans le désert. C'est pas vrai, mais c'est vrai que ça a une consonance biblique, ça veut dire aidé par Dieu, c'est ça que ça veut dire Azaria. Mais on voit que les gens l'interprètent et ça joue encore en défaveur. Et là, évidemment, le fait qu'on n'a pas retrouvé le corps de l'enfant, on commence à se dire, la question que pose l'enquêteur du procureur, il émet un scénario. Et ce scénario, selon lui, est le suivant. Madame Chamberlain aurait pris l'enfant, l'aurait amené dans la voiture, lui aurait tranché la gorge. Et ensuite, elle aurait fait croire, elle serait revenue avec les autres convives, faisant croire à l'idée du dingo. Et pendant que tout le monde cherchait le dingo, elle en aurait profité pour aller dissimuler le corps ailleurs, corps qui n'a jamais été retrouvé. Mais éventuellement, donc ça, c'est ce qui se dit à l'audition. Et malgré que les éléments à charge semblent inquiétants pour les Chamberlain, le juge va quand même se ranger du côté de la version de Madame Chamberlain et dire, à mon avis, elle dit vrai. Même si les éléments semblent très anecdotiques pour supporter l'hypothèse du dingo, à mon avis, c'est la version qui est la vraie et ils sont exonérés. Donc, on se dit, bon, ben là, voilà, l'affaire est terminée. Évidemment, ça soulève un tollé dans la population australienne. On refuse de croire que le dingo est responsable. On imprime même des t-shirts, qui dit « Libérez le dingo est innocent ». Donc, tu vois le genre un peu, vraiment, il y a un tollé public sur le fait qu'on ait littéralement lavé de tout soupçon les Chamberlain. Mais ce n'est que partie remise.
Oh!
Et je te raconte la suite après la pause.
C'est parti.
Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille.
Radio X.
Pour qui me prennent cela pour un cutéreux complètement demeuré, un fichu Yankee? Navis, mon voix.
Monsieur Bart Simpson, je peux vous aider, madame?
Oui, et je m'appelle Brigado Dandridge, d'accord? Vous me devez 900 dollars, mon vieux.
Ah non, c'est vous qui me devez 900 dollars.
T'es qu'un sale petit voyou, c'est ça, hein? Ben, si tu voulais te colter avec quelqu'un, t'es mal tombé, mon gaillard.
Ha, ha, Alors là, je crois pas, non. Vu que vous êtes en Australie. Hé, hey, il me semble que j'entends un dingo qui mange votre bébé.
Oui, mais... Oh! 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 Ça suffit. Je vais raconter ça à mon représentant au Parlement. Hé, hey, Gus! Il faut que je te signale quelque chose. C'est un sacré scandale, cette affaire-là.
Christian, pourquoi tu nous fais entendre un extrait des Simpsons? Parce que dans la culture populaire, ben, c'est connu, les Simpsons auront tout prédit.
Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est arrivé plus tard.
C'est arrivé plus tard.
C'est
oui.
Saison 6, épisode 16. Mais quand Bart Simpson, là, malheureusement, j'ai trouvé que l'extrait de la France. Là,
oui!
Là, c'est une version québécoise, mais c'est ça. Bart Simpson, il dit à son correspondant australien, « Oh, je pense que j'entends un dingo qui mange ton bébé. » Donc, on voit que c'est passé l'idée du dingo qui mange le bébé après l'affaire.
Dans la culture populaire, même.
C'est passé dans la culture populaire, cette expression-là. Donc, au moment où on s'est laissé, hein, on venait d'avoir cette première commission d'enquête qui avait conclu, malgré que beaucoup d'évidences pointaient vers un possible meurtre, le juge va se ranger du côté de Lindy Chamberlain et dire, ben voilà, à mon avis, c'est le dingo qui a commis l'affaire. Mais évidemment, pour les défenseurs du dingo, l'affaire ne peut pas en rester là. Et donc, en septembre 1981, donc à peu près 6 mois après que les Chamberlain aient été, semble-t-il, lavés de tout soupçon, une nouvelle enquête est demandée. Et cette fois-là, la petite grenouillère recouverte de sang est envoyée à des spécialistes au London Hospital of Medical College qui vont passer les vêtements à l'ultraviolet et ils vont déterminer que le sang semble effectivement avoir coulé d'une plaie continue à la gorge. Il semble avoir coulé de haut en bas. Et grâce à l'ultraviolet, on va déterminer que sur la grenouillère en question, il y a une marque, il semble y avoir une main d'adulte, mais d'un petit adulte, donc une main de femme. Donc ça va jouer énormément. Donc presque uniquement sur la foi de ça, on va demander une nouvelle investigation. Ce qui sent, et Madame Chamberlain est incapable d'expliquer pourquoi il n'y a pas de traces de salive du dingo sur le vêtement. Et elle raconte, elle dit, oui, mais Azaria, au moment où je l'ai mise dans son berceau, dans son landau, elle avait cette grenouillère, mais par-dessus la grenouillère, il y avait un petit vêtement comme un petit manteau qu'on appelle une brassière. Elle dit, elle avait cette brassière-là et peut-être que c'est le dingo, la salive du dingo est peut-être sur la brassière, mais n'a pas touché son pyjama. Ben, ça semble un peu invraisemblable. Tu dis, ben là, le dingo, tu sais, il a pas fait son choix. S'il a sorti le bébé, s'il était capable de virer le pyjama à l'envers, il aurait dû laisser quelque part de la salive aussi sur le pyjama, mais c'est un grenouillère, mais il n'y en a pas.
Non,
ben, c'est un
ça.
Peu l'explication qu'elle donne. Alors, dans ce deuxième procès, qui est très important. Donc, encore une fois, on reprend les éléments qui ont déjà été évoqués lors de la première enquête. Hein, l'idée de, elle a pris le bébé, elle l'a amené dans la voiture, elle lui a tranché la gorge. Là, des experts médicaux légaux arrivent en disant, oui, on a trouvé également sur le vêtement, il y a du sang. Ce sang-là, on a pu déterminer que c'était effectivement de l'hémoglobine fœtale. Donc, du sang, il y a des marqueurs qu'on ne retrouve que chez des enfants de moins de 3 mois. Et donc, qui pourrait correspondre à l'âge de Azaria. Mais des experts médicaux légaux disent aussi qu'ils ont trouvé dans la voiture des Chamberlain des traces de sang qui contenaient également des signatures d'hémoglobine fœtale. Donc, du sang appartenant à un enfant de moins de 3 mois, ce qui vient ajouter à l'hypothèse que Mme Chamberlain aurait tranché la gorge de la fillette du poupon dans la voiture. Donc, ça vient ajouter à ça le fait qu'il y a ces experts médicaux légaux de Londres qui disent, ben voilà, on a passé le vêtement au rayon ultraviolet, on voit l'empreinte d'une main sur le vêtement. Ça semble assez étonnant, puisque Mme Chamberlain dit qu'elle n'a pas touché à Azaria lorsque le dingo l'avait dans sa main. Donc, comment est-ce qu'une empreinte de main ensanglantée pourrait-elle apparaître sur le vêtement de la fillette? Et encore une fois, ces fameux experts londoniens viennent ajouter qu'il y avait sur le vêtement aucune salive de canidé et il n'y avait aucune déchirure dans le vêtement qui correspondait à des morsures d'un animal. Même un expert vient dire que les déchirures qu'on retrouve sur le vêtement semblent plutôt correspondre à des marques qu'aurait laissé un ciseau. Alors là, évidemment, tout est là. Dans le cas de ce deuxième procès, encore une fois, Madame Chamberlain, à ce moment-là, elle est très enceinte. Hein, le procès, pour te donner une idée, le procès débute en septembre 1981 et elle va accoucher en le 17 novembre 82. Donc, un mois et demi après, elle va accoucher. Donc, au moment où le procès se tient, elle est déjà grosse de 7 mois, là, tu sais, là, avec sa grosse bédaine, elle vient témoigner. Pour les gens, c'est agaçant, cette idée-là. Hein, on se dit, si la première enfant a été sacrifié, hein, parce que c'est ça l'idée qui circule dans les médias, si c'est un sacrifice religieux, parce que ces gens-là sont bizarres, hein, ils appartiennent aux adventistes du septième jour, il faut se rappeler que 2 ans plus tôt, il y a eu l'affaire du massacre de Guyane de Jim Jones. Tu sais, il y a comme une espèce de folie qui s'est emparée des gens.
Et nom de l'association que tu as parlé, est-ce que c'est une église alternative?
Oui, non, c'est une église officielle, mais une église très fondamentaliste. On est très proche des principes de la Bible. Tu sais, là, donc, on dit Église fondamentaliste, d'obédience chrétienne, mais fondamentaliste.
Okay.
Donc, ils appartiennent à l'Église adventiste des septième jours. Et c'était mieux les adventistes du septième jour, c'est les mormons.
Ah, OK, hein, OK.
Donc, ce sont des mormons, tu sais. Puis là, on se dit, ben là, ce sont ces gens-là, donc une gang de mormons, puis ils sont un peu étranges. Et encore une fois, il y a Madame Chamberlain, dont je t'ai mentionné, qui est très enceinte, impopulaire parce qu'elle vient de la Nouvelle-Zélande, avec encore son teint un peu hautain, elle semble un peu détachée. Bref, elle est pas populaire. Et ensuite de ça, c'est le combat des experts. Et ça, c'est dramatique, encore une fois, pour les Chamberlain. Parce que autant les experts londoniens viennent expliquer, on a trouvé une empreinte de sang, etc. Il y a d'autres experts qui disent, oui, mais parfois, tel produit réagit de telle façon, peut donner une fausse indication, on peut avoir un faux positif. Le jury ne comprend rien. Pour le jury, là, finalement, la seule chose qui est de savoir, c'est cette femme-là qui est dans le box. Es-tu sympathique ou est pas sympathique?
Ouais.
Et comme elle est pas sympathique, éventuellement, elle est condamnée à la prison à perpétuité. Elle est reconnue coupable, évidemment, de la mort de sa fillette, malgré qu'elle clame son innocence. Son mari, Michael, il est condamné à 18 mois de prison, mais une peine de prison suspendue parce qu'il a la garde de leurs 2 garçons encore vivants. Et comme je l'ai mentionné durant le procès, Madame Chamberlain va accoucher, donc, en novembre 82, et on va lui retirer son enfant, et c'est Monsieur Chamberlain qui va prendre en charge l'enfant. Donc, Madame Chamberlain se retrouve en prison, séparée de ses enfants, condamnée à la prison à perpétuité. Puis la prison à perpétuité en Australie, c'est que tu bénéficies pas forcément d'une peine de libération conditionnelle après le 2/3 de ta peine. Ça peut être très souvent le restant de tes jours.
Okay.
Et puis, comme le temps file, on va essayer d'accélérer le pas, mais éventuellement, il va y avoir un retournement assez inattendu dans cette histoire-là. En janvier 1986, donc 2 ans après la, 3 ans après la condamnation de Mme Chamberlain, un touriste britannique, un certain David Brett, va grimper sur Higher Rock et il va faire une chute mortelle. Donc, pendant 2-3 jours, les gens qui le côtoyaient n'entendent plus parler de lui. Éventuellement, ils vont informer les gardiens du parc que Brett avait l'intention d'escalader le Higher Rock. Donc, eux vont se rendre sur place et éventuellement, ils vont trouver son corps au pied de Higher Rock. Il a fait une chute mortelle. Et là, alors qu'on fouille les alentours, ben, crois-le ou non, on va trouver quelle coïncidence extraordinaire, mais c'est vraiment une coïncidence incroyable. On va trouver le petit manteau que portait Azaria. Cette brassière qui la recouvrait, donc on la retrouve, elle est à demi enterrée. Donc et dès que la brassière est retrouvée, la brassière est retrouvée le 2 février. Le 7 février, tous les médias australiens parlent de cette découverte-là. Et le gouverneur des territoires du Nord va demander immédiatement la relaxe de Lady Chamberlain. Parce que la découverte de ce petit manteau vient prouver, non pas qu'on va trouver de la salive sur le manteau, mais il vient prouver le point que Madame Chamberlain avait évoqué depuis le tout début, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas de salive sur la grenouillère, c'est peut-être parce que il y avait ce petit manteau. Et cet élément-là, cette pièce-là, a joué un rôle important dans le procès. On s'est dit, rien ne prouve que ce manteau-là existe. C'est une invention de Madame Chamberlain. Et cette fois qu'on a trouvé le petit manteau, ben, on voit qu'elle n'avait pas menti sur cet élément-là. Et ne serait-ce que sur la foi de ça, on se rend compte, ça veut pas dire qu'elle est innocente. Et tu vas voir que ça va prendre beaucoup de temps avant qu'on dise qu'elle est vraiment innocente. Mais on reconnaît que le fait que si on avait trouvé ce manteau-là autrefois, ça aurait peut-être changé la donne et l'issue du procès aurait été différente. Alors, uniquement sur cette préoccupation-là, tu sais, tu connais le principe, on préfère avoir 10 coupables en liberté qu'avoir un innocent derrière les barreaux. Et c'est un peu le principe qu'on va appliquer. Donc, on demande la relaxe de Madame Chamberlain. Le 15 septembre 1988, les magistrats donnent un absous de façon complète Madame Chamberlain, mais on va demander quand même un troisième procès. Donc, en mesure du fait de ce deuxième procès, c'est comme si on repartait à zéro. On n'a plus rien parfait, il n'y a plus de tort, il n'y a plus de dossier judiciaire criminel contre Madame Chamberlain. Elle est littéralement blanche comme neige, mais maintenant, on doit regarder, est-ce qu'on fait un nouveau procès pour meurtre? Est-ce qu'on recommence au tout début? Et à ce moment-là, on est rendu en 1995, ça fait quand même 15 ans là, que le crime a eu lieu.
Quand même.
Le crime ou le meurtre, hein, ou l'accident, ou peu importe. Et là, des nouvelles analyses viennent montrer très clairement que ce que les experts avaient présenté quelques années plus tôt comme étant de l'hémoglobine fœtale, ben, cette hémoglobine fœtale, effectivement, on pourrait avoir eu plusieurs contaminants qui auraient donné des faux positifs. Donc ça doit être rejeté comme pièce à conviction. Ensuite, le fait qu'on ait retrouvé le petit vêtement, bon, évidemment, comme le vêtement, ça faisait des années qu'il est enterré dans la terre, on pouvait pas espérer retrouver, parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans les années 80-90, la science médico-légale n'est pas ce qu'elle était aujourd'hui, donc on pouvait pas déterminer avec toutes ces années-là s'il y avait de la salive de canidés. Mais le fait qu'on l'ait retrouvé, ça joue en faveur de Madame Chamberlain, et on constate également qu'il y a eu, entre le moment où Madame Chamberlain dit que son bébé a été volé par un dingo, et à ce moment-là, 1995, donc durant ces 15 années-là, on a recensé plus de 400 attaques de dingos contre des gens en Australie. Donc, les dingos, c'est pas aussi innocent que les gens ont bouillon-bou paradis devant le palais de justice avec libérer le dingo, mais un dingo, c'est pas aussi innocent qu'il semble le dire. Donc, éventuellement, en 1995, les Chamberlain sont, le juge déclare, non pas qu'ils sont innocents, mais il dit, la cause de la mort de Azaria Chamberlain demeure une cause non identifiée. Donc, il ne se prononce pas ouvertement, mais évidemment, les Chamberlain vont rester libres. Il n'y a plus d'accusations qui sont portées contre eux. Et puis, finalement, il y a toujours quand même un rappel, hein. Madame Chamberlain va continuer de faire la une des journaux parce que elle veut absolument être absoute de toute accusation. Elle veut que les magistrats disent elle est innocente. Elle veut se voir réhabilitée, puis il faut dire aussi qu'en Australie, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas réhabilitée de cette manière-là, elle n'obtient pas un certificat de décès pour sa fille.
Ah,
ça peut
ouais.
paraître étrange, là, mais c'est les politiques. Là. Alors, elle va faire de nouveau pression. Il va y avoir une nouvelle enquête, et c'est ce que tu as mentionné en début d'émission. Donc, on est pratiquement 30 ans après les événements. On est en juin 2012. Il y a une quatrième enquête qui est menée sur l'affaire d'Azaria. Et là, cette fois, le juge va statuer ouvertement, non pas qu'elle est morte de cause non identifiée, mais il mentionne dans son rapport que Azaria est morte parce qu'elle a été tuée par un dingo. Et donc, à partir de là, Madame Chamberlain est lavée de tout soupçon. Elle va recevoir 1,3 million de dollars pour son incarcération de pratiquement 4 ans derrière les barreaux. Et évidemment, tout ce qui a entraîné ces accusations. Et aujourd'hui, ben, elle continue de militer sur des erreurs. Elle est toujours vivante. Elle continue de militer sur des erreurs judiciaires.
Okay.
Elle a pris la parole à maintes reprises dans les journaux australiens lorsqu'il y a eu l'affaire de Mandy McCann. Tu te rappelles cette histoire de fillette qui s'est faite enlever?
En Espagne,
au Portugal.
Au Portugal, oui, c'est ça, excusez.
Donc, on en a beaucoup parlé. Et à un moment donné, un peu comme les Chamberlain, les McCann ont été pointés du doigt. On les a accusés. On disait, si c'était eux qui avaient tué leur enfant. Et le contexte ressemble un peu à l'histoire des Chamberlain. Hein? Les McCann étaient partis, ils avaient laissé les enfants au lit, ils étaient sortis sur une terrasse. Ils dînaient avec des amis. Madame McCann ou d'autres convives allaient toutes les 15 minutes, 20 minutes voir si les enfants étaient toujours corrects dans leur chambre. Et c'est durant cette période-là que l'enfant est disparu. C'est un peu la même chose qui s'est passé dans le cas des Chamberlain. Hein? Madame Chamberlain allait dans la tente s'assurer qu'Azaria allait bien jusqu'à tant que le dingo vole le bébé. Tout cela pour dire que Madame Chamberlain est toujours vivante. Elle milite beaucoup sur les fausses accusations. Elle est très active dans ce domaine-là. Ils ont divorcé. Elle a écrit un livre en 1990 qui s'intitule Truman Highs, hein, à travers mes yeux. Elle décrit un peu, c'est une autobiographie, mais presque essentiellement consacrée à l'affaire d'Azaria. Et en 1991, donc l'année suivante, le couple a divorcé. C'est sûr qu'avec tout ça, c'est difficile.
Ah,
de
c'est une bonne épreuve. Hein?
Ouais, c'est une épreuve. Et Monsieur Chamberlain est décédé, lui, le 9 janvier 2017. Il est décédé d'une leucémie, alors que Madame Chamberlain, elle, est toujours vivante. Elle est âgée de 74 ans aujourd'hui.
Okay.
Mais malgré toute cette saga-là, et là, je vois que le temps est terminé, mais malgré toute cette saga-là, il faut savoir que même si officiellement, dans les livres, Madame Chamberlain était absoue de tous les soupçons et on a pointé directement du doigt, on accuse ouvertement le dingo d'être le responsable, dans l'imaginaire collectif australien, on n'en est pas si sûr.
Et ta position à toi, Christian, c'est Carlos qui pose la question par texto?
Moi, ma position, c'est le dingo. Ça,
oui.
Ça paraît étrange, mais à mon avis, c'est le dingo qui a fait le coup.
Ben, surtout quand tu as fait la mention qu'on a répertorié plusieurs incidents comme ça d'attaques.
400 attaques, c'est
400, ça. 400, c'est pas quelques-unes, mais, effectivement.
Mais je reconnais que les Chamberlain, si on dit OK, c'est le dingo, c'est ce que je pense, les Chamberlain ont été très malchanceux. Très malchanceux,
ouais.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont joué en leur défaveur, qui sont une série de coïncidences. Le fait qu'on ait retrouvé la grenouillère, mais pas le manteau au début, le fait que personne d'autre a vu le dingo avec le bébé, le fait que les Chamberlain étaient des adventistes, le fait également que Madame Chamberlain n'était pas charismatique, elle n'était pas populaire. T'sais, tout ça a joué contre eux. Et d'ailleurs, au moment où on prononçait la dernière investigation, le juge dit, il faut se méfier de ce que les médias ont envie de nous faire croire. Hein, parce qu'évidemment, les médias manipulaient l'information, évidemment, pour accuser Madame Chamberlain et Paul Dingo. Et ensuite, le juge s'est prononcé aussi sur le fait de, il faut faire attention aussi de se méfier de nos attentes. Hein, c'est vrai que Madame Chamberlain n'a pas réagi comme on aurait été supposé à s'attendre d'une mère qui aurait été accablée par la mort de son enfant. Elle n'a pas réagi comme ça. Mais le fait qu'elle n'a pas réagi comme ça, ça fait pas d'elle une coupable. Mais on voulait voir en elle une coupable. On s'est dit, ah non, une mère éplorée devrait être dévastée, elle devrait être comme ça. Alors que Madame Chamberlain était plutôt froide et détachée par rapport à ça. Mais c'était son caractère à elle. Et sur le fait qu'elle n'ait pas réagi comme on aurait souhaité qu'elle réagisse, ne faisait pas d'elle une coupable.
Chacun sa façon de réagir à des traumatismes, effectivement. Mais tu nous as amené complètement ailleurs ce soir. Moi, je m'attendais à ce qu'on parle d'une femme criminelle tueuse d'enfants.
Non, c'est un dingo.
C'est un dingo, finalement. Un dingo qui est un chien sauvage roux. Mais faut pas insulter les Australiens en disant ça. Mais les dingos, on peut faire quelques ravages dans cette histoire-là.
C'est des canidés sauvages.
Oui,
c'est pas un chien, c'est un canidé sauvage.
On va y aller avec le terme scientifique. Christian, merci encore une fois pour ce soir. Histoire très intéressante. Moi, c'est mon segment préféré de l'émission des radios.
C'est une histoire que j'aime beaucoup parce que quand ça avait commencé, cette histoire-là, je l'avais suivie parce que ça paraissait comme un crime occulte. Hein?
Ben oui.
Parce qu'il y avait tout ça jusqu'à... Puis, tu sais, on pointait le dingo. Il y avait quelque chose d'assez magique dans cette histoire-là, tu sais, qui venait chercher l'imaginaire. Puis je peux comprendre que les Australiens ça les a pris au trip, cette histoire de procès où on accusait le dingo d'avoir tué l'enfant.
Ça les a ébranlés. Et la semaine prochaine, on retourne dans nos bottines pour ce qui est des ovnis. Je sais pas si tu as vu la filiale d'Amazon qui veut faire un concours pour que les gens montrent des preuves extraterrestres.
Des bonnes photos d'extraterrestres. Allez-vous sortir vos beaux appareils photo? C'est le temps de les prendre en photo.
C'est un bon coup de pub. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça cette semaine.
On s'en reparle la semaine prochaine.
Bon week-end et aux auditeurs également.
Ça marche. Ciao.
Bye-bye.